Et encore depuis, il fut dans la Grèce en état de tribun militaire, ou colonel de 1000 hommes de pied, sous Manius Ancilius, contre le roi Antiochus, surnommé le Grand, lequel épouvanta autant les Romains que fit onque ennemi après Hannibal. Car ayant conquis tous les royaumes et provinces de l'Asie, qu'avait auparavant tenu Séleucus Nicanor, ayant dompté et réduit à son obéissance plusieurs barbares nations fort belliqueuses, il en eut le cœur si élevé qu'il osa bien entreprendre la guerre contre les Romains, comme contre ceux qui seuls restaient dignes et assez puissants pour contester de l'Empire à l'encontre de lui. S'y prit une couleur pour ce faire, et une couverture honnête, disant que c'était pour affranchir et remettre en liberté les Grecs, qui n'en avaient aucun besoin, attendu qu'ils vivaient lors à leur loi, ayant été nouvellement affranchis de la servitude du roi Philippe et des Macédoniens par le bénéfice des Romains. Mais nonobstant cela, il passa de l'Asie en la Grèce, avec une grosse et puissante armée, et fut incontinent toute la Grèce en grand branle, sollicitée par les promesses et grandes espérances que leur mettaient devant les yeux ceux qui étaient au gouvernement des cités, que le roi avait corrompu et gagné par argent. À l'occasion de quoi, Manius y envoya des ambassadeurs par les villes, entre lesquelles Titus Quintius Flaminius en fut l'un, qui retint en office et garda de s'émouvoir la plus grande partie des peuples qui déjà a commencé à prêter l'oreille à ces nouvelletés, ainsi que nous avons plus au long déclaré en sa vie. Mais Caton, qui fut aussi envoyé, ramena à la raison les Corinthiens, ceux de Patras et les Égyens, et séjourna assez longuement en la ville d'Athènes, et il y en a qui disent que l'on trouve encore une sienne harangue en langage grec, qu'il prononça devant le peuple d'Athènes à la louange des anciens Athéniens, là où il dit qu'il y avait eu grand plaisir de voir Athènes pour la beauté et la grandeur de la ville. Mais cela est faux, car il parla aux Athéniens par un truchement, combien qu'il eût bien pu haranguer en grec s'il eût voulu. Mais il se contentait tant des lois et coutumes de son pays, et du langage romain, qu'il se moquait de ceux qui louaient et avaient en admiration le grec, comme il se moqua de Postumius Albinus, lequel a écrit une histoire en langue grecque, où il prie les lecteurs en son prologue que l'on l'excuse s'il y a quelques imperfections au langage. Car il eût bien mérité, disait Caton, qu'on lui pardonnât, voirement s'il eût été contraint d'écrire son histoire en langage grec par ordonnance des États de la Grèce, qui s'appelle le Conseil des Amphictyons. Mais on dit que les Athéniens s'émerveillèrent grandement de la soudaineté et brièveté de son langage, parce que ce qu'il avait dit rondement, et en peu de paroles, le truchement leur interprétait et redisait par une longue circuition et grande traînée de langage, tellement qu'il leur laissa et imprima cette opinion, que le parler ne sortait aux Grecs que des lèvres et aux Romains du cœur. Or avait le roi Antiochus occupé les pas et détroits des montagnes que l'on nomme les Thermopyles, et par où l'on entre à la Grèce, et les avait remparés tant de son armée, qui était campée au pied de la montagne, que de murailles et de tranchées qu'il avait fait faire à la main, outre les naturelles fortifications des lieux de montagne, et se reposait sur lesdits remparements, cuidant bien avoir du tout arrêté là, et diverti ailleurs le fort de la guerre, aussi n'espéraient pas les Romains de leur pouvoir forcer le front. Mais Caton, remémorant en soi-même le circuit que jadis avaient fait les Perses pour semblablement pénétrer au-dedans de la Grèce, se partit une nuit du camp avec partie de l'armée pour essayer s'il pourrait trouver le même chemin du tour que firent les barbares. Mais, ainsi qu'ils cheminaient contre mont la montagne, leur guide, qui était l'un des prisonniers que l'on avait fait au pays, faillit le chemin et les égara en lieu fort âpre et fort malaisé, dont les soudards rentrèrent en grand effroi. Et lors Caton, voyant le danger auquel il les avait mis, commanda à toute la troupe que l'on ne bougeât pas de là, et que l'on y attendît le pied quoi, et cependant lui seul, avec un autre nommé Lucius Manlius, homme fort dispos de sa personne et habile pour gravir contre les rochers des montagnes, et se mit en chemin avec une peine incroyable, et non moindre danger de sa vie, marchant la nuit toute noire, que la lune ne luisait point à travers des oliviers sauvages et entre des rochers hauts et droits, qui les gardaient de voir devant eux, tellement qu'ils ne savaient où ils allaient, jusqu'à ce qu'ils tombèrent en un petit sentier, lequel, à leur avis, s'allait rendre au pied de la montagne, à l'endroit où était le camp des ennemis. S'y mirent quelques brisées et enseignes sur les plus hautes croupes de rochers, et que l'on pouvait choisir à l'œil de plus loin, au-dessus du mont qui s'appelle Calidromus, puis, cela fait, s'en retournèrent en arrière pour quérir les gens qu'ils conduisirent vers les enseignes, tant qu'ils entrèrent en leur sentier, là où ils déposèrent leurs soudards en ordre pour marcher. Mais ils n'eurent pas guère cheminé par ce chemin qu'ils avaient trouvé, qu'il leur faillit tout court, parce qu'ils rencontrèrent une grande fondrière qui les mit de rechef en plus grande détresse, et leur fit plus grande frayeur qu'auparavant, ne sachant pas qu'ils fussent si près de leurs ennemis, comme à la vérité ils étaient. Le jour commençait déjà un petit à poindre, et fut avis à l'un de ceux qui marchaient devant qu'il voyait quelque bruit, et qu'il entrevoyait tout au bas au pied des rochers le camp des Grecs, et quelques-uns qui faisaient le guet, par quoi Caton fit là arrêter toute la troupe, et commanda que les soudards firmaniens, sans autres, vinssent devers lui, parce qu'il les avait toujours trouvés fort fidèles, et fort promptes à exécuter ses commandements. Ils ne faillirent pas à accourir incontinent, et à se ranger tout autour de lui, et alors il leur parla en cette manière. « Compagnons, il est besoin que j'aie entre mes mains quelqu'un de nos ennemis vifs pour enquérir et savoir de lui qui sont ceux-là qui gardent ce pas de montagne, en quel nombre ils sont, quel ordre ils tiennent, comment ils sont campés et armés, et en quel équipage ils délibèrent de nous attendre. Le moyen de se faire gît en vitesse et hardiesse de l'aller soudainement ravir et surprendre, comme font les lions, qui, sans aucune arme, ne feignent point de s'aller ruer au milieu d'un troupeau de bêtes timides. » Il n'eut pas plus tôt achevé ces paroles que les soudards firmaniens se prirent à courir à val de la montagne tout ainsi qu'ils étaient, droit à ceux qui faisaient le guet, et ils les chargeant en désordre. Les mirent aisément en déroute, et en saisirent un au corps avec ses armes, qu'ils amenèrent aussitôt à Caton, lequel, par la déposition du prisonnier, fut averti comme le fort de l'armée des ennemis était logé avec le roi en personne, dans le détroit même, et dans la vallée de la montagne, mais que ceux qu'il voyait étaient 600 éoliens, tous hommes d'élite, que l'on avait choisi et ordonné pour garder quelques croupes de rochers au-dessus du camp d'Antiochus. Quoi entendu, Caton, sans en faire autrement compte, tant pour le petit nombre qu'ils étaient que pour le mauvais ordre qu'ils gardaient, fit incontinent sonner les trompettes et marcher ses gens à bataille avec grand cri, cheminant lui-même le premier devant sa troupe, l'épée traite en la main. Mais aussitôt que les éoliens les virent descendre des rochers et venir droit à eux, ils se mirent à fuir vers le grand camp, là où ils emplirent tout d'effroi, de trouble et de désarroi. Et d'autre côté, Manius, au même instant, donna l'assaut aux murailles et fortifications que le roi avait faites faire à travers la vallée et détroit des montagnes. Auquel assaut, Antiochus, même, reçut un coup de pierre sur le visage qui lui jeta des dents hors de la bouche, tellement que pour la douleur qu'il en sentit, il détourna son cheval et se tira arrière de la presse. Et à donc, n'y eut-il plus rien en son armée qui fit tête, ni qui pût soutenir l'impétuosité des Romains. Mais, combien que les lieux fussent fort malaisés pour fuir, à cause qu'il était impossible de s'écarter, parce que d'un côté, ils avaient les hauts rochers coupés, et de l'autre côté, les fondrières et les marais fort profonds dans lesquels ils tombaient, s'il advenait que les pieds leur glissaient ou que l'on les poussât. Néanmoins, ils se jetaient les uns sur les autres à travers les détroits où s'entrepoussaient tellement qu'ils se perdaient eux-mêmes de peur des coups d'épée que leur tireraient les Romains. Et là, Marcus Caton, qui était jamais chiche de célébrer et prêter ses louanges, et qui n'avait point de honte de haut louer soi-même tout ouvertement, estimant que c'était une suite qui devait toujours accompagner les grandes prouesses et les hauts faits d'armes, ajouta à ce glorieux exploit une brave magnificence et hautesse de parole. Car il écrit lui-même que ceux qui le virent ce jour-là, chassant et foudroyant les ennemis, furent contraints de confesser que Caton ne devait point tant au peuple romain comme le peuple romain devait à Caton, et que le consul même Manius, bouillant encore de l'ardeur du combat, le teint longuement embrassé, tout chaud d'avoir chassé les ennemis, et qu'il s'écria tout haut de grande joie que ni lui, ni le peuple romain, ne saurait payer à Caton loyer égal à ses mérites. Après cette bataille, le consul l'envoya à Rome pour porter lui-même de bouche les nouvelles de cette victoire, s'y embarqua tout un continent et eut le temps si à propos qu'il traversa la mer sans fortune jusqu'à Brinde, et de là alla jusqu'à Tarente en un jour, et de Tarente en 4 jours à Rome, tellement qu'il y arriva en 5 journées. Depuis qu'il eut pris terre en Italie, et fit si bonne diligence qu'il fut le premier qui apporta les nouvelles de cette victoire, si emplit à son arrivée toute la ville de réjouissance et de sacrifice, et le peuple romain de grande et hautaine opinion de soi-même, comme celui qui se persuada à être désormais assez puissant pour conquérir la monarchie du monde, tant par mer que par terre. Ce sont là presque tous les plus beaux et les plus notables faits d'armes de Caton. Mais quant aux actes civils, en matière de gouvernement, il semble qu'il avait cette opinion que poursuivre les méchants en justice était l'une des principales choses à quoi devait vaquer et s'appliquer un homme de bien et bon gouverneur de choses publiques. Car lui seul en accusa plusieurs, et se souscrivit en compagnie avec d'autres qui en accusaient aussi. Bref, il suscitait toujours quelque accusateur, comme il fit un certain Pétilius à l'encontre de Scipion. Mais quant à celui-là, voyant bien que pour la noblesse de sa maison et pour la vraie magnanimité et grandeur de courage qui était en lui, il mettait sous les pieds toutes les calomnies et imputations que l'on proposait à l'encontre de lui, n'espérant pas le pouvoir jamais faire condamner à mourir. Il se déporta de la poursuite, mais bien se formalisa-t-il avec d'autres accusateurs à l'encontre de Lucius Scipion, son propre frère, et le poursuivit de sorte qu'il le fit condamner en amende d'une bien grosse somme de deniers envers la chose publique, laquelle ne pouvant payer, il fut en grand danger d'être pris au corps et constitué prisonnier, et eut fort affaire à s'en sauver en appelant de la sentence devant les tribuns du peuple. Auquel propos l'on compte que quelques jours, passant à travers la place, il rencontra en son chemin un jeune homme, lequel venant d'obtenir sentence par laquelle il avait fait noter d'infamie un des plus grands ennemis de son père, naguère décédé, et que Caton, avec une chair joyeuse, l'embrassa et lui dit « C'est cela, mon fils, c'est cela que les gentils enfants doivent sacrifier et offrir à l'âme de leur père, non pas des agneaux, ni des chevreaux, mais les larmes et condamnations de leurs ennemis et adversaires. Mais comme il travaillait bien les autres, aussi n'était-il pas lui-même sans danger en l'administration de la chose publique. Car s'il donnait la moindre prise du monde sur lui, il était incontinent mis en justice par ses malveillants, de manière que l'on dit qu'il fut accusé près de 50 fois, à la dernière desquelles il était âgé de 86 ans. Et fut là où il dit une parole qui depuis a été bien recueillie et bien notée. Qu'il est malaisé de rendre compte et raison de sa vie devant les hommes d'un autre siècle que de celui auquel on avait vécu. Et encore ne fut pas ce procès-là le dernier de ses combats, car 4 ans depuis, en l'âge de 90 ans, il accusa Servius Galba. Aussi vécut-il, comme Nestor, presque 3 âges d'homme, toujours en continuelle action, car ayant eu de grandes piques et grand déférent touchant les affaires de la chose publique, à l'encontre du premier Scipion, surnommé l'Africain, il passa, outre jusqu'au temps du second Scipion, lequel fut adopté par le fils du dit premier Scipion, étant fils naturel et légitime de Paul-Émile, celui qui défit Persée, le roi de Macédoine. Au demeurant, Marcus Caton, 10 ans après son consulat, demanda l'office de censeur, qui était à Rome, la cime de dignité, et le comble d'honneur le plus haut où pouvait atteindre le citoyen romain, et par manière de dire, le couronnement de toutes les charges et autorités que l'on peut avoir au gouvernement de la chose publique. Car en autre pouvoir, un censeur a loi d'enquérir sur la vie et de réformer les mœurs d'un chacun, parce que les Romains ont estimé qu'il ne fallait pas qu'il fût loisible à chacun de soi marié, engendrer enfant, vivre chez soi en privé, ni faire banquet et festin à sa volonté, sans craindre d'en être repris ni recherché, et qu'il n'était point bon de lâcher la bride à tout le monde, afin que chacun en fît à sa guise, comme son appétit l'inciterait ou que son jugement le guiderait. Mais estimant que le naturel et les mœurs des hommes se découvraient plus en telle chose, que non pas en celle que l'on fait publiquement en plein jour et devant tout le monde, ils élisaient deux réformateurs, gardes et correcteurs, pour avoir l'œil, et en garder que personne ne se dévoyât du chemin de la vertu en celui de la volupté, et ne transgressât les ordonnances, statuts et coutumées de leurs choses publiques. Lesdits officiers s'appelaient, en langage romain, censeurs. Et il y en avait toujours un nécessairement des anciennes nobles maisons que l'on nommait patriciennes, et l'autre des populaires. Ils avaient l'autorité et puissance d'ôter le cheval public au chevalier et de débouter et priver un sénateur du Sénat s'il était trouvé qu'il eût désordonnément et méchamment vécu. À eux appartenait de faire la prisée et l'estimation des biens de chaque citoyen, de discerner les lignées, les âges, les états et degrés de la chose publique, et en tenir registre, outre plusieurs autres prééminences et prérogatives qu'avait encore ladite magistrature. À raison de quoi, quand Caton s'alla présenter entre les poursuivants qui demandaient et briguaient le dit office, tous les principaux et les plus nobles hommes presque du Sénat se mirent en effort de l'empêcher d'y parvenir, les uns par envie, estimant que c'était une honte et une tâche à la noblesse de souffrir que des hommes issus de lieux bas et obscurs et qui étaient les premiers de leur race parvenus aux dignités de la chose publique, fussent tout un continent poussés et avancés jusqu'au suprême degré d'honneur et aux états d'autorité souveraine. Les autres, qui se sentaient véreux et qui savaient bien qu'ils avaient transgressé des lois et ordonnances de leur pays, rebutaient l'austérité et la sévérité de cet homme, pensant qu'il n'épargnerait ni ne pardonnerait à personne, quand une fois il aurait autorité. Par quoi, après en avoir consulté ensemble, ils lui opposèrent et mirent à l'encontre 7 compétiteurs, lesquels allaient caressant et flattant la commune, avec gracieuses paroles et belles promesses, qu'ils lui mettaient en avant, comme si le peuple eût eu besoin de magistrats qui le traitassent doucement et fissent les choses à sa volonté. Mais au contraire, Caton, sans montrer aucune apparence de vouloir être doux ni gracieux en l'administration du dit office, mais au contraire menaçant tout publiquement de la tribune ou harangue ceux qui avaient méchamment et malheureusement vécu, et criant à haute voix que la ville avait besoin d'une grande purgation, admonestait le peuple d'élire non pas les plus gracieux, mais les plus âpres et les plus rigoureux médecins, comme lui en était un tel qu'il fallait, et entre les patriciens Valerius Flaccus, un autre, en compagnie duquel seul il avait espérance, s'ils étaient élus censeurs publics, de faire un grand bien à toute la chose publique, en coupant et brûlant, comme les têtes d'une hydre, les délices, la volupté et superfluité qui s'étaient coulées en la chose publique, et qu'ils voyaient bien que tous les autres poursuivants tâchaient à y parvenir par menées et voies obliques, parce qu'ils redoutaient ceux qui voulaient y verser droitement et y faire le devoir des gens de bien. Là montra bien le peuple romain qu'il était véritablement magnanime et digne de grands magnanimes gouverneurs, et digne de grands et magnanimes gouverneurs. Car il ne refuit point la rudesse et roideur inflexible de ce personnage. Mais en rejetant tous ces autres gracieux, qui donnaient apparence de vouloir faire toutes choses au bon plaisir du peuple, il élut Marcus Caton, censeur, avec Valerius Flaccus, en lui obéissant tout ainsi que s'il eût été déjà possesseur et non poursuivant d'une magistrature, laquelle était à lui à donner à qui bon lui semblerait. La première chose donc qu'il fit, après être installé à l'état qu'il fut qu'il nomma prince du Sénat, son ami et compagnon à la censure, Lucius Valerius Flaccus, et priva de la dignité de sénateur entre plusieurs autres, Lucius Quintius, lequel avait été consul 7 ans auparavant, et était frère germain de Titus Quintius, qui défit en bataille Philippe, roi de Macédoine, ce qui lui était plus honorable que d'avoir été consul. Mais la cause pour laquelle il jeta hors du Sénat fut telle. Ce Lucius Quintus avait toujours en sa compagnie et menait avec lui à la guerre un jeune garçon, dont il avait abusé charnellement dès l'enfance du garçon. Elle lui donnait autant de crédit et d'autorité qu'au plus grand de ses familiers et amis qu'il eut autour de soi. Advint donc un jour que, étant gouverneur d'une province consulaire, il fit un festin auquel ce garçon, comme de coutume, était assis à table auprès de lui, qui commença à le flatter, sachant bien qu'il se laissait aisément aller quand il avait bu, et entre autres flatteries lui dit qu'il était tant épris de son amour que combien que sur son partement, on eût tout préparé à Rome pour donner au peuple les battements de voir escrimer et combattre des gladiateurs à outrance. Néanmoins, il s'en était parti à grand hâte pour le venir trouver sur le point que le combat se devait faire, encore qu'il n'eût jamais vu, et qu'il désira fort voir auxir un homme. A donc ce Lucius Quintus, pour lui rendre l'appareil, et le caresser aussi de son côté, « Ne te chaille pas, dit-il, car de ce plaisir que tu as failli avoir, et n'en fais déjà pire cher pour cela, car je te satisferai bien promptement à ton désir quant à cela. » Et aussitôt qu'il eut dit ces paroles, il commanda que l'on tirât de la prison, tout sur l'heure, un des criminels condamnés à mourir, et que l'on l'amena en la salle, et le bourreau quand et quand avec sa hache. Ce qui fut aussitôt fait. Et lors, il demanda au garçon s'il voulait voir tuer présentement cet homme. Le garçon répondit que oui, et a donc commanda à l'exécuteur qui lui trancha la tête. La plus grande partie des auteurs anciens le récite ainsi, et même Cicéron, au livre qu'il a écrit de la vieillesse, dit qu'il est ainsi écrit en une harangue que Caton en fit devant le peuple romain. Ayant donc Lucius Quintius était ainsi ignominieusement jeté hors du Sénat par Caton, son frère Titus, qui en fut fort déplaisant, ne sut recourir sinon au peuple, lequel il supplia de faire commandement à Caton qu'il eût à dire la cause pour laquelle il donnait une telle note d'infamie à sa maison. Par quoi Caton, en présence du peuple, fit le récit de tout ce festin. Et comme Lucius le nia et affirma qu'il n'en était rien, Caton lui déféra le serment qu'il jura publiquement ce dont il se chargeait n'être pas véritable. Mais Lucius se voulut excuser de le faire, à l'occasion de quoi le peuple jugea sur le champ qu'à bon droit il avait reçu cette note d'infamie. Toutefois, quelque temps après, ainsi que l'on jouait des jeux au théâtre, Lucius y vint, et passant outre le quartier qui était ordonné pour ceux qui avaient été consuls, s'alla s'asseoir à l'écart assez loin. Le peuple en eut pitié, et lui cria tant qu'il le contraignit de retourner ce soir parmi les autres sénateurs de dignité consulaire, en rhabillant le mieux qu'il lui était possible cet ignominieux accident advenu à une noble famille. Il priva aussi et jeta hors du Sénat un autre nommé Manilius, qui avait de grands arts de devoir être consul l'année suivante, et ce, pour autant qu'en plein jour et devant sa fille, il avait trop amoureusement baisé sa femme, et disait que jamais la sienne ne l'embrassait, sinon quand il tenait bien fort. Et pour ce avait-il accoutumé de dire en se jouant qu'il était bien heureux quand Jupiter tonnait. Il ôta aussi le cheval public à Lucius Scipion, qui avait triomphé pour les victoires gagnées à l'encontre du grand roi Antiochus, ce qui lui causa une grande malveillance, parce qu'il sembla à tout le monde qu'il le fit expressément pour faire honte à Scipion l'Africain, qui était décédé. Mais ce qui plus universellement fut trouvé dur et qui offensa plus de gens, fut qu'il retrancha les délices et la superfluité. Car de l'ôter du tout, et du tout ouvertement, il était impossible, tant il y avait déjà d'hommes qui en étaient entachés, corrompus et gâtés. Mais tournoyant obliquement alentour, en faisant la prisée et l'estimation des biens et facultés de chaque citoyen, il fit mettre en taxe et estima les vêtements, les coches, les litières, les bagues et joyaux de femmes et les autres meubles et ustensiles de ménage qui avaient coûté plus de 1500 drachmes par pièce, 10 fois plus qu'il n'avait coûté et qu'il ne valait, afin que ceux qui auraient dépensé et mis leur argent en telles choses curieuses et superflues en payassent de temps plus de taille aux contributions qu'il conviendrait faire pour les affaires de la chose publique, que leurs biens seraient surtaxés et plus haut estimés. Et s'y ordonna que pour chaque 1000 d'airain, c'est-à-dire pour chaque 1000 as, que telle chose aurait été prisée et estimée, les maîtres en payassent 3 fois de tribut à la chose publique, à cette fin que, se sentant grévés de telle taille, et voyant que ceux qui avaient autant vaillants comme eux, mais qui se contenaient simplement, et ne portaient point si grands états, payaient beaucoup moins de taille à la chose publique, et étaient moins chargés d'eux, se châtiassent eux-mêmes en se déportant d'être superflus, somptueux et délicieux. Toutefois, il en encourut la haine et malveillance, d'un côté de ceux qui aimèrent mieux payer ce tribut que de laisser leurs délices, et d'autre côté, de ceux qui aimèrent mieux abandonner leurs délices que de payer le tribut. Car il y en a plusieurs qui estiment que c'est leur ôter leur richesse que leur empêcher les moyens d'en faire montre. Et si ont cette folle persuasion qu'elle se montre mieux dans les choses superflues qu'elle ne fait au nécessaire, de quoi l'on dit que le philosophe Ariston s'ébahissait autant et plus que de nulle autre chose, comment les hommes réputaient ainsi riches et bienheureux ceux qui possédaient les choses curieuses, superflues et volontaires, plutôt que ceux qui possédaient les utiles et nécessaires. Et Scopas Thessalien, comme quelqu'un de ses familiers lui demanda ne sait quoi qui lui servait pas de beaucoup, et lui dit, pour plus facilement l'introduire à lui concéder, « C'est chose qui ne vous est ni nécessaire ni utile. » Et c'est, dit-il, ce en quoi je suis le plus opulent et le plus riche, qu'en choses superflues, et qui ne servent de rien. Ainsi, l'ardeur et la convoitise d'avoir ne procèdent d'aucune affection ou nécessité naturelle, ni qui soit conjointe à notre chair, mais s'engendre en nous d'ailleurs, et nous vient d'une fausse opinion du vulgaire. Mais qu'a-t-on, se souciant moins que de choses du monde, des crieries que l'on faisait à l'encontre de lui, en roidissait, et tendait encore davantage son austérité, faisant couper et rompre les tuyaux par lesquels aucun particulier dérobait l'eau des fontaines publiques, ainsi qu'en passait au long de leur maison, et la tirait en leur logis et en leur jardin privé, et faisait ainsi démolir et abattre toutes les saillies des édifices privés qui avançaient sur les rues et places publiques, et diminuant le prix des ouvrages qui se faisaient aux dépens de la chose publique, et au contraire haussant les fermes et gabelles au plus haut qu'elles pouvaient aller. Toutes lesquelles choses lui engendrèrent une grande haine et malveillance de beaucoup de gens. Pourquoi Titus Flaminius et quelques autres, bandés à l'encontre de lui, firent en plein Sénat rescinder, casser et annuler tous les marchés et les contrats qu'il avait faits avec les maîtres ouvriers pour la réparation et entraitement des édifices publics et sacrés, comme étant fait au dommage de la chose publique, et suscitèrent les plus audacieux et plus téméraires tribuns du peuple contre lui, à ce qu'il appela son justice devant le peuple, et requis qu'il fût condamné en l'amende de 2 talents. Aussi lui firent-ils beaucoup de détourbiers et d'empêchements à l'édification du palais qu'il fit bâtir aux dépens de la chose publique, regardant sur la grande place, au-dessous de celui où se tenait le Sénat, lequel palais fut néanmoins parachevé, et appelé de son nom Basilica Portia, comme qui dirait le palais qui fit édifier le censeur Porcius. Toutefois, il semble que le peuple romain eut très agréable et loua grandement ce qu'il avait fait en l'administration de sa censure, car il lui fit dresser une statue au temple de la déesse Santé, sous laquelle il ne fit point écrire ses faits d'armes ni son triomphe, mais y fit engraver une inscription dont la sentence était telle à la translater de mot à mot: à l'honneur de Marcus Caton, censeur, pour autant que par bonne mœurs, sainte ordonnance et sage enseignement, il redressa la discipline de la chose publique romaine, laquelle inclinait déjà et se tournait à mal. Si est-ce qu'auparavant que cette image lui fut dressée, il se saoulait moquer de ceux qui aimaient ou appétaient telle chose, disant qu'il ne s'apercevait pas de ce qu'ils se glorifiaient non de leur vertu, mais des ouvrages des fondateurs, peintres et statuaires, et quant à lui, que ses citoyens portaient toujours avec eux de très belles images et portraitures, et de lui empreintes en leur cœur. Entendant la mémoire de sa vie et de ses faits, qui s'émerveillait jamais, On dressait ainsi des images à plusieurs petits et inconnus personnages, et à lui non. « J'aime mieux, dit-il, que l'on demande pourquoi l'on n'a point dressé de statue à Caton, que pourquoi on lui en a dressé. » Bref, il ne voulait pas qu'un homme de bien même souffrît qu'on le louât, si ce n'était que cela tournât au profit de la chose publique. Et néanmoins, ça a été l'un des hommes qui s'est le plus loué soi-même, tellement que s'il se trouvait quelqu'un qui, par erreur, eût en aucune chose oublié leur devoir, quand on en venait à les reprendre, il disait qu'on les devrait excuser, parce qu'ils n'étaient pas Caton, pour ne point faillir. Et ceux qui tâchaient à imiter quelqu'un de ces faits, qui ne leur advenait pas bien, ils les appelaient sinistres Catons. Il disait davantage que dans les temples plus dangereux, le Sénat jetait les yeux sur lui, ni plus ni moins que sur les passagers qui sont dans un navire, regardent le pilote quand il se lève en mer une tourmente, et que, souvent de fois, le Sénat différait et remettait à un autre temps des affaires de bien grandes conséquences quand il n'était pas présent. Ce que d'autres, que lui témoignent avoir été véritable, car il eut très grande autorité à l'administration de la chose publique, tant pour sa grande prudomie que pour son éloquence et aussi pour son extrême vieillesse. Mais outre cela, on lui donne la louange d'avoir été bon père envers ses enfants, bon mari envers sa femme, et bon ménager à bien gouverner et faire profiter ses biens. Car il n'estimait point que ce fût chose légère, ni dont on dût faire peu de compte, et ne s'en mêler qu'en passant le temps seulement. Pourtant ne sera-t-il point hors de propos, à mon avis, d'en dire ici quelques mots, en tant qu'il peut servir à la matière présente. Premièrement, il épousa une femme plus noble que riche, sachant très bien que l'une et l'autre seraient orgueilleuses et fières, mais estimant aussi que celles qui sont extraites de noble sang ont plus de vergogne des choses malhonnêtes que n'ont pas les autres, et que par là, elles se rendent plus obéissantes à leur mari en choses raisonnables et honnêtes. Au demeurant, il disait que celui qui battait sa femme ou son enfant commettait aussi un grand sacrilège, comme qui violerait ou pillerait les plus saintes choses qui soient au monde. Et estimait plus grande louange à un homme d'être bon mari que bon sénateur. À l'occasion de quoi, il ne trouvait rien de plus louable en la vie de l'ancien Socrate que sa patience de s'être toujours humainement et doucement portée envers sa femme, qui avait si mauvaise tête, et ses enfants, qui étaient si écervelés. Depuis que sa femme lui fait un fils, il ne sut avoir affaire si pressée, si ce n'était pour la chose publique, qu'il ne la laissa pour s'en aller en sa maison à l'heure que sa femme lavait et remuait son enfant. Car elle le nourrissait elle-même de son propre lait, et bien souvent donnait à téter aux petits enfants de ses esclaves, afin de leur imprimer une charité et amour naturel envers son fils, pour avoir été nourris ensemble et d'un même lait. Quand son fils fut parvenu à l'âge de raison, et qu'il commença à être capable d'apprendre, lui-même lui enseigna les lettres, combien qu'il eût un serf nommé Quillion, honnête homme et bon grammairien, qui en enseignait beaucoup d'autres. Mais, comme il dit lui-même, il ne voulait point qu'un esclave tensât son fils, ni qu'il lui tirât l'oreille, quand peut-être il n'apprendrait pas assez promptement ce qu'on lui montrerait, et s'il ne voulait point que son fils fût tenu ni redevable à un serf d'une si belle et si grande chose, comme de lui avoir enseigné les lettres. Au moyen de quoi lui-même lui enseigna la grammaire, les lois, l'escrime, non seulement pour lancer le javelot, jouer l'épée, voltiger, piquer chevaux et manier toute arme, mais aussi pour combattre à coups de poing, endurer le froid et le chaud, passer à nage le courant d'une rivière impétueuse et roide. Et si dit davantage qu'il composait et écrivait de sa propre main de belles histoires en grosses lettres, afin que son fils, dès la maison de son père, eut connaissance des gens de bien du temps passé et de leurs faits vertueux, à l'exemple desquels il put former sa vie pour en mieux valoir. Et si dit qu'il se donnait autant garde d'en user de paroles sales et vilaines en la présence de son fils, comme il eût fait devant les religieuses vestales. Jamais ne s'étuvait avec lui, mais cela était alors une usance commune à tous les Romains, car les gendres mêmes ne se baignaient point avec leur beau-père, mais avaient honte de se dépouiller les uns devant les autres. Depuis,
ayant appris des Grecs à se baigner nus avec les hommes, ils leur ont maintenant en récompense enseigné à se dépouiller et baigner nus avec les femmes mêmes. Or ne défaillait point le bon vouloir au fils de Caton, qui en désirait faire un chef-d'œuvre en le formant et composant au moule de la parfaite vertu, car il avait le cœur si gentil qu'il tâchait de faire tout ce que son père lui montrait, mais il avait le corps de nature si débile et si faible qu'il ne pouvait pas endurer grand travail, à raison de quoi son père lui relâcha un petit la trop dure et trop étroite austérité et règle de vie que lui-même observait. Mais néanmoins, quoiqu'il fût de nature débile et de petite et faible complexion, si ne se laissa-t-il pas pourtant d'être vaillant homme et de faire très bien son devoir en la guerre, car il combattit vaillamment à la bataille où Persée, le roi de Macédoine, fut défait par Polémile, là où, lui étant l'épée volée des doigts par un grand coup qu'il reçut dessus, avec ce qu'il avait la main suante, il en fut fort déplaisant, et pria quelques-uns de ses amis qu'ils lui aidassent à la recouvrer. Ils se ruèrent tous ensemble sur l'ennemi à l'endroit où elle était tombée, et firent tant à force d'armes qu'ils fendirent la presse, et éclairèrent le lieu où à la fin ils la trouvèrent. Mais ce fut à grand-peine, parce qu'elle était déjà couverte de monceaux d'autres armes et de corps morts, tant des Romains que des Macédoniens entassés les uns sur les autres. Le général Polémile, ayant entendu cet acte, en loua et prisa grandement le jeune homme, et trouva-t-on encore aujourd'hui une lettre missive de Caton à son fils, par laquelle il loue et magnifie fortement cet acte de prouesse et cette diligence qu'il fit de recouvrer son épée. Depuis, ce jeune Caton épousa l'une des filles de Polémile, sœur du second Scipion, qui s'appelait Tertia, et fut reçu en l'alliance de cette si noble maison, non moins pour sa propre vertu que pour la dignité et l'autorité de son père. Ainsi eut l'étude la peine et le soin que Caton mit à instituer son fils, issu tel comme elle méritait. Il avait toujours un grand nombre de serfs qu'il achetait, petits et jeunes, quand on vendait les prisonniers de guerre à l'encan, et les choisissait aussi jeunes, parce qu'ils étaient encore en âge de prendre le pli de telle nourriture qu'il leur voulait bailler, et qu'il en était plus facile à dompter, ni plus ni moins que des petits poulains ou de jeunes chiens. Mais nul de tout, tant qu'il en avait, n'entra donc en sa maison d'autrui, sinon que Caton ou sa femme l'y eût envoyé. Si on leur demandait que faisait Caton, ils ne répondaient sinon « je ne sais ». Et fallait, quand ils étaient en la maison, qu'ils fissent quelque chose de nécessaire ou qu'ils dormissent, car il aimait fort ceux qui dormaient volontiers, estimant que les serfs qui aimaient à dormir étaient plus maniables, et que l'on en faisait mieux ce que l'on voulait que de ceux qui étaient éveillés, ayant opinion que ce qui incitait les esclaves à entreprendre et faire les plus grandes méchancetés était pour accomplir leur volupté avec les femmes. Il ordonna que les siens pourraient avoir la compagnie des serfs de sa maison pour un prix d'argent qu'il leur taxa, avec expresse défense de n'avoir affaire à aucune femme quelconque hors de sa maison.